Voici la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver Camille. Mais le sommet du G7 s'achève ce lundi à Biarritz et à l'heure des premiers bilans, les éditorialistes à travers la planète sont bien embarrassés.
Oui, bien embêtés car dès le départ, Emmanuel Macron avait prévenu, il n'y aura pas de communiqué final pour inscrire noir sur blanc les engagements des soi-disant dirigeants les plus puissants de la planète. C'est ce que rappelle Politico, un moyen pour le président français de couper l'herbe sous le pied de Donald Trump, de l'empêcher de bloquer à lui seul les discussions multilatérales. Mais au final, on se retrouve avec un sommet et 7 vérités qui en ressortent, soit autant que le nombre de participants. Chacun, faute de devoir suivre un texte approuvé par tous, se retrouve libre de communiquer sur ses propres conclusions et aucun ne s'en prive depuis hier soir. Ça donne donc, toujours selon Politico, un sommet qui restera comme celui du storytelling, du récit politique, où chacun plie la narration dans le sens de ses intérêts nationaux.
Et c'est d'autant plus vrai sur le sujet qui fait le plus parler ce matin, la visite surprise hier à Biarritz du chef de la diplomatie iranienne, Jawad Zarif.
Était-ce un coup de génie de la part de Macron ou bien un coup à la hussarde au nez et à la barbe des Américains ? Le quotidien allemand, Die Welt, a du mal à trancher, même s'il rappelle que la chancelière Angela Merkel a salué et soutenu l'initiative française. Pour sa compatriote, la Süddeutsche Zeitung, une chose est sûre, c'était une invitation particulièrement risquée quand on sait, il faut le rappeler, que Jawad Zarif fait partie des principales personnalités politiques iraniennes visées personnellement par les sanctions américaines et que donc Donald Trump et son administration pourraient tenir grief à la France de l'avoir accueilli. Au lieu de cela, raconte à son tour le New York Times, hier soir le président américain a laissé faire et c'est déjà beaucoup diplomatiquement parlant. Il a traité la venue de Jawad Zarif par le silence et par une ostentatoire indifférence. No comment, ont répété ses aides de camp interrogés forcément par les médias du monde entier pendant que Trump lui-même rentrait à son hôtel pour tweeter des messages de bon anniversaire à des personnalités du show business. Car si la venue impromptue de Zarif, l'Iranien, a pris le président américain au dépourvu, lit-on dans le Washington Post, elle a surtout révélé à quel point Trump est isolé parmi les grandes puissance dans sa stratégie de pression maximale imposée sur Téhéran. Pour autant, il ne faut pas se leurrer, aucun accord n'a été trouvé hier soir à Biarritz. C'est Radio Farda, la radio internationale en persan, financée par les Américains, qui nous le rappelle. L'Iran se dit prête à remettre des garde-fous à son programme nucléaire, à condition toutefois que Washington accepte d'alléger les sanctions imposées à ses exportations de pétrole. Dans tous les cas, eh bien, on sera bien en deçà de l'accord international qui avait été signé en 2015. À Vienne.
Et pendant ce temps, Camille, les tensions n'en finissent pas de croître entre l'Iran et Israël au-dessus du Liban.
C'est en quelque sorte le côté face de cette séquence diplomatique d'apaisement jouée par les Européens et les Iraniens. C'est l'huile sur le feu, le conflit par procuration entre Israël, qui reste l'allié inoxydable des Américains au Proche-Orient, et le Hezbollah libanais, poste avancé des Iraniens au contact de l'État hébreu. C'est à lire dans le quotidien francophone de Beyrouth, L'Orient le Jour. Ce week-end, 2 drones israéliens ont visité l'euphémisme est entre guillemets, le ciel de la banlieue sud de la capitale libanaise. Le premier est tombé apparemment de lui-même et il a été immédiatement récupéré par les hommes du Hezbollah. Le second a explosé dans les airs tout près du centre de presse de l'organisation chiite où il a fait quelques dégâts matériels. Mais, euphémisme à part, cette visite, eh bien, une attaque israélienne, une violation grave de la souveraineté libanaise. Ce sont les mots du premier ministre Saad Hariri qui jure de porter l'affaire devant l'ONU quand le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, cité par Al Jazeera, dénonce la plus grave attaque menée par Israël au Liban depuis 2006 et jure d'abattre tous les drones israéliens qui survoleront le pays à l'avenir.
Tout ça n'est également pas sans lien avec les frappes revendiquées hier par l'armée d'Israël sur des positions pro-iraniennes en Syrie cette fois.
Oui, et c'est la BBC qui l'analyse pour nous. La rapidité inhabituelle avec laquelle Tel Aviv a communiqué hier sur ces bombardements nous montre à quel point Benjamin Netanyahou joue une carte politique à quelques semaines d'élections législatives israéliennes et il accentue ses offensives contre la force iranienne Al-Quds et ses diverses milices armées chiites au Moyen-Orient. C'est vrai au Liban et en Syrie donc, c'est vrai apparemment aussi en Irak, comme le révélait jeudi dernier le New York Times, des avions de Tzal auraient bombardé en territoire irakien, donc des bases du Hashd al-Shaabi, une alliance de groupes armés là encore considérée comme proche de l'Iran et hostile aux Américains. Pour le Times of Israel, enfin, c'est clair, Benjamin Netanyahou Netanyahou et son armée veulent tout simplement empêcher l'Iran de créer un empire chiite dans la région. Une affaire donc une fois de plus de légitime défense, mais qui laisse entrevoir rien de moins qu'une guerre sanglante encore à venir au Moyen-Orient.
Merci beaucoup Camille Magnard, vous allez encore avoir beaucoup de travail cette année au vu de l'actualité internationale. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr. Il est 7h40.